Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, nous avons l'eau en partage pour le meilleur et pour le pire. Voici ce qu'écrit Eric Orsenna dans la préface du livre de Guilain de Marcilly, « L'eau, un trésor en partage ». L'eau est-elle devenue un trésor convoité ? Parlerons-nous prochainement d'une guerre, des guerres de l'eau ? Ou plus que de conflit de l'eau, faudrait-il parler de conflit de la faim, l'agriculture dépendant en partie de l'irrigation et de la pluie ? Vous l'aurez compris, au cours de cette émission éclairage, nous nous intéresserons aux enjeux politiques de l'eau et aux solutions qui peuvent être esquissées pour une meilleure gestion de cet or bleu. Guilain de Marcilly, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géologue de formation, professeur émérite à l'université Pierre et Marie Curie Paris 6 et à l'école des mines de Paris. Vous intervenez sur les questions de l'eau auprès des instances internationales et de nombreux gouvernements. Et vous êtes membre de l'Académie des sciences, auteur de « L'eau, un trésor en partage » paru aux éditions d'Uno en 2009. Guilain de Marcilly, avant de nous pencher sur l'aspect géopolitique de l'eau, j'aimerais avec vous que l'on aborde la question même de l'eau sur Terre. L'eau suit un cycle en trois étapes sur Terre, évaporation, condensation, précipitation, et ce moteur est le moteur de ce cycle, c'est le Soleil. Cette boucle semble sans fin, alors de ce fait, est-ce que l'on peut dire que l'on perd réellement de l'eau, Guilain de Marcilly ?
En pratique, on n'en perd pas. On n'en perd pas du tout. Ce cycle se répète de façon infinie, vous l'avez dit, par l'énergie apportée par le Soleil. Si on gratte vraiment le dernier détail, eh bien, on s'aperçoit que dans la très haute atmosphère terrestre, les rayonnements du Soleil sont capables de décomposer la molécule d'eau en oxygène d'un côté, hydrogène de l'autre. L'hydrogène étant léger, finalement, quitte l'atmosphère, part de la Terre et disparaît dans l'espace interplanétaire, et donc est perdu pour la Terre. Donc effectivement, par ce petit mécanisme-là, on pourrait dire qu'on perd un peu d'eau. Les estimations dont nous disposons de la quantité d'eau perdue ainsi depuis 4,6 milliards d'années, qui est l'âge de la Terre, sont 1 pour 1000 de la quantité d'eau présente sur Terre. Donc c'est rien du tout. Donc en pratique, à votre question, la réponse censée est dire on ne perd pas d'eau.
On ne perd pas d'eau, mais il y a une répartition différente.
Alors maintenant, ça c'est autre chose. Si effectivement on s'intéresse à ce qui arrive à un endroit donné de la planète, c'est-à-dire la pluie qui va ensuite alimenter le cycle local de l'eau, eh bien ça, les variations climatiques font que ces pluies ou cette répartition de l'eau entre les différentes composantes peut beaucoup changer en fonction de la température, des précipitations, des vents en particulier. Une question très importante pour laquelle on n'a pas encore de réponse, c'est les vents alizés. Les vents alizés qui sont des vents qui circulent d'ouest en est dans les latitudes élevées de la planète, eh bien, dans les périodes de climat un petit peu perturbées, ils seraient, apparaît-il, extrêmement modifiés. Et donc les précipitations dans ces zones-là, c'est-à-dire plutôt le nord de l'Europe ou le sud de l'Afrique ou le sud de l'Amérique du Sud, pourraient être très fortement participées par une perturbation importante des vents alizés sur lesquels on sait très peu de choses.
Alors, je le disais lors de ma première question, il y a donc ces trois étapes, évaporation, condensation, précipitation. Sur l'évaporation et la condensation, 65% des précipitations se retrouvent par évaporation dans l'atmosphère. Il y a aussi transpiration de la végétation, vous expliquez très bien dans votre livre, c'est l'évapotranspiration. Et donc, il y a énormément, une quantité d'eau assez importante qui se retrouve dans l'atmosphère et qu'on ne retrouve pas sur Terre.
Oui, il ne faut pas voir ça comme une perte. Effectivement, les 65% de la pluie qui repartent assez vite à l'atmosphère sur les continents, ben c'est ça qui entretient toute la végétation. S'il n'y avait pas cette transpiration naturelle de l'eau du sol repompée par les racines et réamenée aux feuilles, eh bien on n'aurait aucun arbre, on n'aurait pas d'herbe, on n'aurait rien. Donc c'est tout à fait indispensable au maintien de la vie, à tout ce que nous connaissons autour de nous. Alors, d'un autre côté, cette eau qui repart dans l'atmosphère, ben elle n'est pas perdue parce qu'un peu plus loin, elle retombe en pluie. Alors, si on est, par exemple, ici en France, l'eau qui va s'évaporer, elle va monter dans l'atmosphère, elle se dirigera en général vers l'est et elle va probablement retomber plutôt vers l'Europe de l'Est ou en Russie. Donc, eux, la pluie qu'ils verront, c'est une pluie qui se sera évaporée chez nous, alors que nous, la pluie que nous voyons, elle vient de la mer, puisqu'elle s'est évaporée sur nous et elle est tombée sur nous. Donc, ce n'est pas une perte, en fait. Elle revient, elle est recyclée aussi.
Donc, continuons sur cette répartition. 65% de précipitations se retrouvent sous forme d'évaporation de l'atmosphère et 32% des précipitations se retrouvent sous forme d'écoulement. Mais à deux titres, alors je vous laisse les préciser.
Alors, le premier titre, c'est ce qu'on appelle le ruissellement, c'est-à-dire l'eau que l'on voit couler quand il pleut sur les surfaces, par exemple les rues ou même les champs et les sols, et qui se rassemble en rigoles, ces rigoles en petits ruisseaux, et ces ruisseaux aboutissent aux rivières, et tout ça aboutit à faire couler, en période hivernale et en période où il pleut beaucoup, les rivières, ce qu'on appelle en crue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de débit qui part assez vite à la mer à cause de ce ruissellement direct. Le deuxième partie de l'eau qui est tombée sur la surface du sol s'y infiltre. Alors, elle s'infiltre et elle commence par être stockée dans le sol superficiel. Et c'est là que les racines vont aller le rechercher et alimenter les 65% qui partent. Mais dans les endroits où il pleut assez, c'est-à-dire en particulier dans les climats tempérés comme les nôtres, mais pas dans les zones arides, eh bien, il y a plus d'eau dans le sol que ce que peuvent consommer les plantes. Et cette eau finit par descendre, arrive en profondeur dans ce qu'on appelle les aquifères ou les nappes souterraines, s'écoule dans ces nappes et rejoignent soit la mer, soit les rivières.
Et puis enfin, dans cette répartition, il y a 3% des précipitations qui se retrouvent aux extrêmes, Antarctique et Groenland.
Oui, alors ça, ce sont les glaces des régions polaires. Vous l'avez bien dit, on ne compte dans ces précipitations sur les continents que s'ils tombent sur des terres, c'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique. En revanche, les pluies qui tombent, par exemple, au pôle Nord, qui n'est pas un continent, mais qui est une masse de glace flottant sur la mer, eh bien, on ne les compte pas dans les pertes que j'ai indiquées, parce que ce sont des pluies qui sont tombées sur la mer, donc elles restent dans le cycle de l'eau des océans. En revanche, ce qui est tombé sur l'Antarctique et les continents et le Groenland, eh bien, cette glace se met à couler, elle arrive en mer et elle y fond. Et les 3% dont vous parlez, c'est ça. C'est la fonte des glaciers de ces deux surfaces continentales, Groenland et Antarctique, qui arrive finalement en mer avec un trajet très lent. La glace ne coule pas très vite, mais finalement, ça fait chaque année à peu près 3% des pluies sur les continents qui se retrouvent dans la mer de cette façon-là.
Est-ce qu'on peut estimer le volume d'eau sur Terre selon les réservoirs d'eau? Alors, réservoirs d'eau, ce sont les océans, vous en parliez à l'instant, les eaux souterraines, les glaces et également l'eau des cellules vivantes. Est-ce que l'on peut donner un chiffre plus ou moins précis?
Alors, le chiffre du volume des océans est bien connu. Il a été estimé parce qu'il suffit de mesurer la profondeur des océans, donc on sait le calculer, et c'est évidemment le chiffre le plus important sur la planète, puisque ça représente, de mémoire, à peu près 96,7% de l'eau de la planète se trouve sous forme d'eau salée dans les océans. Je repars sur les océans, donc 96,7% des eaux. Les glaces de l'Antarctique et du Groenland représentent environ 2,2% de l'eau, c'est de l'eau douce. Et puis, les eaux souterraines, qui est le troisième chiffre en volume, représentent 1,1% des eaux de la planète. On considère que la moitié de ces eaux souterraines sont salées et le reste est de l'eau douce. Donc, on n'aurait que 0,6%, 0,5% d'eau douce contenue dans les aquifères souterrains. En revanche, ce chiffre est extrêmement incertain. C'est peut-être là-dessus qu'on a le plus grande incertitude, parce que c'est difficile à mesurer. Il faut connaître tous les aquifères en profondeur, savoir combien ils ont d'eau, si elle est douce, si elle est salée, donc on ne connaît pas. Alors, si on passe derrière, l'eau de tous les lacs d'eau douce, c'est rien du tout. C'est 1% de l'eau des eaux souterraines. Donc vous voyez ce que l'on voit très facilement, le lac Léman, le lac Baïkal, les grands lacs américains, c'est rien. En point de vue volume, pour le stock en eau de la planète, c'est moins de 1% de ce qu'on a dans le sous-sol. Et puis le reste, j'en parle même pas, l'eau dans les cellules, on arrive à un 0,1% de l'eau que l'on a sur Terre. Donc c'est évidemment très important pour nous, mais au point de vue de la quantité d'eau stockée dans les cellules de toutes les cellules vivantes de la Terre, c'est rien du tout.
Et pourtant, on parle de pénurie à venir d'eau. Une pénurie, on a bien compris, qui n'est pas la conséquence de diminution de ressources, mais la croissance de besoins alimentaires, vous l'écrivez dans votre livre. Une croissance de besoins alimentaires due elle-même à la croissance démographique et au changement des habitudes de consommation. Devrons-nous moins consommer pour pouvoir conserver de l'eau? Je ne sais pas, mais en tout cas pour pouvoir faire en sorte que chacun puisse vivre.
La planète est en train de vivre un épisode inquiétant qui est, à cause de la croissance démographique, on arrive un peu aux limites de ce que la planète peut faire vivre sur Terre. Il y a une trentaine d'années, on avait des articles qui disaient « Oh là là, aucun problème, on peut faire vivre 100 milliards de personnes sur Terre ». C'est impossible. Maintenant, on en est bien conscient. Il est impossible de faire vivre 100 milliards de personnes sur Terre. Je vous rappelle qu'on est aujourd'hui à peu près 7 milliards et que nous serons probablement 9 et quelques milliards en 2050. Alors, est-ce que ce chiffre de 2050, de 9 milliards, est raisonnable? À mon avis, il ne l'est pas. En ce sens que nous allons exacerber tous les problèmes d'alimentation en eau, en nourriture, en espace, en énergie, d'une planète aussi peuplée. Et nous arrivons aux limites de ce qu'on peut faire. Bon, les travaux que nous avons conduits à l'Académie sur l'alimentation mondiale nous conduisent à dire que on doit pouvoir nourrir 9,2 milliards de personnes en 2050 et qu'après, les prévisions démographiques nous laissent à penser que ce chiffre serait un petit peu un maximum et pourrait même décroître après. Donc on va peut-être arriver quand même à passer ce cap extrêmement dangereux d'une planète, j'allais dire, surpeuplée. Alors, qu'est-ce qui va manquer en premier? Je crois qu'effectivement, c'est l'alimentation. C'est ça qui va être la chose la plus difficile. Je vous ai dit, c'est possible de nourrir 9 milliards de personnes, mais pour beaucoup, la nourriture que nous consommerons dans les années 2050 ne sera plus produite localement. Aujourd'hui, pour l'essentiel, la nourriture que nous mangeons, le pain, la viande, etc., est produite dans le pays où on se trouve. C'est moins vrai pour les pays arides comme l'Afrique du Nord ou le Moyen-Orient, mais enfin, encore, il y a une fraction très importante de la nourriture qui est produite localement. En 2050, ceci sera impossible. Il faudra absolument qu'on ait une solidarité internationale qui fasse que les pays où il y a de l'eau et des sols pour produire, c'est-à-dire essentiellement l'Afrique, les pays de l'OCDE, la Russie et l'Amérique du Sud, produisent plus que ce dont ils ont besoin pour nourrir les autres qui ne pourront pas se nourrir.
Des greniers qui vont comme ça s'établir, se créer?
Voilà, alors c'est des transferts de nourriture, des solidarités, j'appelle ça des solidarités. Et le continent qui sera le plus, je dirais, assoiffé, affamé, sera l'Asie. L'Asie, c'est plus de la moitié de l'humanité. L'Asie, en 2050, n'aura pas assez de ressources, eau et sol, pour produire la nourriture dont elle aura besoin. Donc il faut bien être conscient de ça. Ça aura des conséquences politiques énormes. Maintenant, à votre question précise, est-ce qu'il faut économiser? Bien sûr. Tout ce que l'on peut faire pour réduire les besoins, réduire la consommation, fera que l'on passera ce cap difficile de 2050 en ayant le moins dégradé la planète. Parce que pour nourrir 9 milliards de personnes, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il n'y a pas d'alternative. Il faut produire plus, c'est-à-dire avoir de meilleurs rendements, c'est-à-dire probablement avoir une activité agricole plus intensive, avec des conséquences écologiques, environnementales que l'on connaît. Ou, je dirais que c'est encore pire, défricher, c'est-à-dire couper la forêt et mettre à la place des champs de maïs, de blé, de betteraves, de tout ce qu'on veut. Donc, nous allons saccager la planète pour arriver à nourrir tout le monde. Il faut être conscient. Donc, tout effort pour réduire la consommation ira dans le bon sens, ira dans le sens de réduire les besoins de l'humanité en général et réduire les consommations. Alors, nous, Européens, nous sommes particulièrement visés parce que nous gaspillons. Nous gaspillons environ 30% de la nourriture qui nous est proposé. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à jeter de la nourriture dans les poubelles. On trouve dans les poubelles de vous et moi, on trouve des boîtes entières de nourriture qui n'ont même pas été consommées, ouvertes, et qui sont jetées. Ça, c'est scandaleux et on ne peut pas se le permettre.
On a bien compris l'interaction, le lien, comme quoi l'eau et le problème de conflit de la faim sont très liés.
Oui, il faut produire la nourriture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut deux éléments. Il faut des sols sur lesquels on va faire pousser les choses, et puis de l'eau pour que ça pousse. Alors, quand l'eau vient toute seule, c'est les pays, je dirais, de la zone tempérée où il n'y a pas besoin d'irriguer. Donc, le facteur limitant dans ces cas-là, c'est les sols, sols cultivables, arables, comme on dit. Et puis, dans les pays où il ne pleut pas assez, les pays de la zone aride, eh bien, on irrigue. Donc, il faut trouver de l'eau, il faut l'amener sur place et faire des aménagements importants, construire des barrages, des canaux, des systèmes d'irrigation pour qu'on puisse faire produire là où la nature ne permet pas de le faire tout seul par la pluie.
Guylaine Marsili, si vous le voulez bien, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.
Contre les OGM. L'émission Regard Croisé vous propose un débat entre deux scientifiques avisés sur la question, Gérard Toulouse et Pierre Feillé. Faites-vous votre propre opinion à l'écoute des arguments des deux parties en téléchargeant librement cette émission sur canalacademy.com.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Guylaine Marsili. Dans cette deuxième partie d'émission, Guylaine Marsili, j'aimerais qu'on aborde les tensions palpables ou à venir entre États ou entre personnes d'une même nation. Vous avez plusieurs exemples que vous citez dans votre ouvrage. J'aimerais qu'on y revienne avant d'aborder dans un second temps la question de la consommation. On l'a déjà esquissé dans la première partie, mais j'aimerais qu'on y revienne dans un second temps. Revenons donc à ces niveaux de guerre possibles. Vous en distinguez trois. Le premier, la guerre de l'eau entre États, et vous citez l'exemple de l'Égypte et de l'Éthiopie et de ce lac Nasser qui suscite la convoitise de l'un et de l'autre. Est-ce que vous pourriez nous redonner le contexte?
Alors le contexte, c'est les besoins en eau de l'Égypte. L'Égypte utilise depuis de façon ancestrale les eaux du Nil et a construit pour réguler les apports des eaux du Nil un grand lac qui s'appelle le lac Nasser, connu aussi sous le nom de barrage d'Assouan, qui a été construit dans les années 60. Et ce barrage et ce lac ont été une bénédiction pour l'Égypte, en empêchant des crues dévastatrices de ravager le pays et en permettant, pendant des années de déficit des précipitations, d'avoir suffisamment d'eau pour produire de la nourriture dans les rizières et faire vivre les Égyptiens. Certaines voix se sont élevées sur les effets écologiques néfastes de cette retenue sur la Méditerranée. C'est vrai, ils existent, mais parler à n'importe quel Égyptien, ce sera une bénédiction, le lac Nasser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le lac Nasser se remplit à partir des eaux du Nil bleu et que le Nil bleu provient de l'Éthiopie. L'Éthiopie est un haut plateau à plus de 2000 mètres d'altitude qui se trouve en amont de l'Égypte et c'est là que tombent les pluies qui finalement aboutissent dans le Nil bleu et sont stockées à Assouan. Alors, les Égyptiens, depuis 1960, ont à peu près doublé leur population et les Éthiopiens ont fait de même. Donc aujourd'hui, les deux pays ont besoin de beaucoup plus d'eau qu'ils n'en avaient besoin dans les années 60 et se retournent vers cette seule et unique ressource en eau de la région qui est le Nil.
Et qu'ils doivent partager.
Voilà. Alors, les Éthiopiens ont dit, nous, on va construire des barrages pour pouvoir stocker les eaux du Nil et l'utiliser pour irriguer chez nous. Les Égyptiens ont fait savoir aux Éthiopiens, depuis des années, que tout barrage construit en Éthiopie serait une déclaration de guerre et que les Égyptiens ne le permettraient pas et viendraient bombarder, détruire et empêcher la construction des barrages. Donc, vous voyez, on a une situation de quasi-conflit, en ce sens que l'un a déjà dit, si vous faites ceci, moi, je vous déclare la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu une initiative toute récente prise par les Nations Unies pour essayer de dénouer un peu ce conflit latent et surtout de satisfaire un peu aux besoins des Éthiopiens qui ont véritablement besoin d'eau puisque leur population continue à augmenter de façon extrêmement rapide et la famine frappe parfois l'Éthiopie. Ça s'est passé en 1975 en particulier. Alors, la solution est la suivante. L'eau stockée à Assouan est stockée dans peut-être le plus mauvais endroit de la planète où stocker de l'eau. On est en plein désert, dans une zone où il fait extrêmement chaud.
Il y a beaucoup d'évaporation.
Il y a énormément d'évaporation et une dizaine de kilomètres cubes d'eau par an disparaît à la surface du lac par simple reprise par l'atmosphère et le soleil. Or, il faut savoir que l'Égypte utilise à peu près 57 kilomètres cubes d'eau du lac Nasser chaque année et le Soudan environ une vingtaine. Donc 10, c'est quand même un chiffre énorme. Alors, l'idée est la suivante. On va aller construire en Éthiopie, en altitude, des barrages dans lesquels on stockera l'eau qui autrefois allait dans le lac Nasser. Et le fait de les avoir construits, ces barrages, en élévation sur les plateaux éthiopiens, fait qu'ils ne s'évaporeront beaucoup moins. Je ne dirais pas nul, pas du tout. Il y aura de l'évaporation. Mais on va peut-être économiser, sur les 10 km cubes qui sont évacués chaque année, on va peut-être en économiser les trois quarts. Donc, si on peut mettre autour d'une table les Éthiopiens et les Égyptiens pour convenir de cela, en leur disant, écoutez, on construit les barrages et on stocke l'eau en Éthiopie, mais l'eau, elle reste à vous. Donc, c'est vous qui la prenez quand vous en avez besoin. Et nous, Éthiopiens, on prendra le surplus, c'est-à-dire ce qui n'aura pas été évaporé. Donc, vous voyez, on a un discours qui est gagnant-gagnant pour tous les deux, puisque les Égyptiens n'auront pas moins, les Éthiopiens auront plus. Mais, comme l'Éthiopie est en altitude, quand on lâche les eaux des barrages éthiopiens, on peut les turbiner pour faire de l'électricité. Les Égyptiens énormément besoin d'électricité. Donc, vous voyez que c'est un discours qui pourrait, bon, avec des compromis, avec des facilités, arriver à peut-être à mettre tout le monde d'accord. Donc, je crois beaucoup entre États, au dialogue, à la négociation. Certains vont devoir peut-être un peu lâcher de l'eau. Vous savez que dans la vallée du Mékong en particulier, les pays à l'aval, c'est-à-dire le Laos, la Thaïlande, le Vietnam, etc., ont énormément de besoin d'eau et que le haut bassin du Mékong est entièrement chinois. Les Chinois ont des programmes de construction de 14 grands barrages pour stocker ces eaux et l'utiliser chez eux. Là, il y a un conflit latent, hein, un conflit latent, mais c'est évident que les Chinois ont le dernier mot, c'est eux les plus forts. Et donc, la seule solution d'éviter un conflit qui n'aurait pas d'issue, c'est qu'on négocie, les Nations Unies s'en mêlent et on essaie de trouver un compromis acceptable pour chacune des parties. Donc, globalement, je pense que ce processus dont je vous parle, c'est-à-dire s'asseoir autour d'une table et voir qu'est-ce qu'on peut faire d'intelligent et à la fois utile pour tous, devrait permettre de désamorcer l'essentiel, je ne dis pas tous, mais l'essentiel des grands conflits. Je donne un exemple dans mon livre entre le Pakistan et l'Inde, qui sont des pays qui ne sont pas amis. Hein. Et vous le savez bien, ils ont chacun construit des bombes atomiques pour, se menacer l'un l'autre. Eh bien, malgré cette tension, qui est quand même beaucoup liée aussi à la possession du Cachemire, eh bien, l'Inde et le Pakistan arrivent, bon an, mal an, à se mettre d'accord sur la façon de gérer les eaux de l'Indus, hein, qui part de l'Inde et qui arrive au Pakistan. Donc, vous voyez, il y a quand même quelques espoirs.
Il y a des dialogues, pas toujours équitables, mais le dialogue existe. Ça, c'est un premier niveau de guerre, entre guillemets, possible. Hein. Un deuxième niveau, c'est celui de guerre civile entre populations d'un même pays. Les deux exemples sont cités dans votre ouvrage, celui du Darfour et celui potentiel du Rwanda et du génocide en 1994.
Oui, là j'y crois beaucoup plus. Hein. J'y crois beaucoup plus. Et avant de vous parler de ces deux exemples, je vous parlerai des émeutes de la faim de 2008 en Égypte. Vous savez qu'à cause de la crise alimentaire de 2008, il y a eu, pour diverses raisons, absence ou déficit en grains, en blé, en maïs, en riz. Et donc, le prix de ces denrées ont explosé sur les marchés, ce qui fait que le prix du pain a augmenté. Et donc, en Égypte, il y a eu ce qu'on appelait des émeutes de la faim, auxquelles le gouvernement, très sagement, a réussi à mettre un terme rapidement en régulant le prix des denrées alimentaires, en faisant que les gens puissent continuer à acheter du pain. Donc, vous voyez, si on a des crises alimentaires de cette nature, tout peut arriver. Hein. Et là, ce n'était pas une guerre entre différents États. C'est Égyptiens entre eux. Bon, vous savez que la Révolution française, on dit qu'en 89, elle est due au fait qu'il n'y avait pas de pain en France. Hein. Donc, les guerres civiles, les émeutes ou les révolutions ont beaucoup eu des causes alimentaires. Alors maintenant, les deux exemples que je donne dans le livre, c'est effectivement, commençons par le Rwanda, si vous voulez. Vous savez qu'il y a eu 12 d'années, je crois, des massacres au Rwanda. Assez tragique, hein, puisqu'il y a des millions de personnes qui sont mortes. Et on affecte en général la cause, on donne comme cause de ce massacre des problèmes tribaux, des problèmes de tribus. On avait en particulier dit que les Hutus, qui sont les personnes qui ont massacré la tribu dominante qui était les Tutsis, se sont un peu vengés de la dominance de l'un par l'autre, etc. Problème économique, problème de poids respectif de chacun des ethnies dans les gouvernements. C'est peut-être vrai, c'est peut-être une partie du vrai. Mais un géographe très intéressant à lire qui s'appelle Jared Diamond propose une autre explication. Cette autre explication, il dit, le Rwanda était devenu trop peuplé, la quantité de personnes par mètre carré était devenue comparable à celle qu'on a en Belgique, les ressources alimentaires dans le pays étaient devenues insuffisantes et les gens, finalement, s'appauvrissaient et littéralement étaient affamés par cet excès. Alors, il dit, bon ben, ça a eu pour conséquence que les gens se sont exterminés entre eux. Alors, c'est très extrême, mais il a un élément quand même qui m'a paru extrêmement convaincant, qui est de dire que dans certaines régions du Burundi, j'ai dit Rwanda tout à l'heure, mais c'est Burundi, hein, excusez-moi, dans certaines régions du Burundi, on a observé, on a constaté qu'il y a eu des massacres de Hutus par des Hutus. Donc là, on a du mal à voir la cause trimale de ces massacres. Donc je pense que cette hypothèse que beaucoup des personnes auxquelles j'en ai parlé me disent non, ça c'est pas vrai, qui connaissent mieux le Rwanda que moi, j'y ai jamais été. Enfin, bon, c'est quand même une question qui se pose. Hein. Les massacres ont eu lieu, quelles en ont été les causes? Elles sont probablement multifactorielles, il y en a plusieurs, mais peut-être que la faim, la pénurie, le manque de ressources en est une des causes. C'est pas vraiment étonnant. Alors maintenant, le Darfour, il y a 36 causes. Il y a des causes ethniques, bien sûr, on les connaît, mais quand même, tout le monde s'accorde à dire qu'au Darfour, vous avez un conflit, je dirais, ancestral qui s'est produit dans presque la totalité de la planète, qui est le conflit des éleveurs nomades avec les agriculteurs sédentaires. Hein. Les uns et les autres ont besoin d'accès à la terre, à l'herbe, à l'eau. Et bien sûr, il y a eu de tout temps des conflits entre les deux communautés, les deux types de communautés. Alors, il se trouve qu'au Darfour, c'est aussi deux types de populations différents. Hein. Donc, ceci n'arrange en rien les difficultés. Mais enfin, c'est une difficulté qui est quand même liée un peu à une pénurie. Donc, d'herbage pour le bétail, d'eau pour le bétail et de terres agricoles pour produire de la nourriture. Donc, on revient à cette idée qu'en cas de pénurie de nourriture, on peut très bien avoir des conflits qui dégénèrent et qui deviennent des émeutes et même des crimes hein, entre populations locales.
Et puis, dans cette lancée, pour terminer sur ces niveaux, le troisième niveau, les grandes migrations environnementales, où là, il peut y avoir des tensions, du moins dans le pays qui reçoit cette population qui migre à un endroit précis. Est-ce qu'on a un exemple sur des migrations environnementales, conséquences de la pénurie d'eau?
Écoutez, en Afrique subsaharienne, le climat de cette région-là, qu'on appelle le Sahel, est connu pour être très variable. Si on fait l'historique du climat depuis le début du XXe siècle, on s'aperçoit qu'on passe environ tous les 15-20 ans d'un climat un peu plus sec à un climat un peu plus humide. La dernière épisode sec s'étant produit à partir de 1978, c'est ce qu'on a appelé la sécheresse au Sahel. Bon, si on regarde ça avec une perspective un peu historique, on s'aperçoit que ces populations du Sahel sont assez, je dirais, habituées à ce type de migration. Quand il fait très sec quelque part, eh ben, tout le monde se déplace un petit peu et va d'un pays à l'autre. Les nomades de ces régions-là se déplacent sans tenir compte des frontières. Donc ce sont des choses qui se font assez normalement dans ces zones soumises à des aléas climatiques et des choses comme ça. Alors, évidemment, ceci devient de plus en plus compliqué et difficile et exacerbé si la population a augmenté à cause de la démographie. Donc, il y a toujours eu, par exemple, dans la vallée du fleuve Sénégal, il y a eu des conflits importants entre, de nouveau, les sédentaires et les nomades. Hein. Donc, ceci n'est pas nouveau. Ça devrait, à cause de la croissance démographique, être amplifié et ces conflits-là de plus en plus fréquents. On peut le redouter. Alors maintenant, quand on parle de migration environnementale, on va plus loin. Et on a en général en tête l'exemple du Bangladesh, qui est un pays extrêmement surpeuplé, dès aujourd'hui, et où trois quarts de la population vit à moins d'un mètre au-dessus du niveau de la mer. Donc la moindre variation, quelque petite qu'elle soit du niveau de la mer, peut avoir des conséquences extrêmement pénibles et néfastes et dramatiques pour des gens qui cultivent et vivent sur des sols qui sont inondés en partie de l'année et qui peuvent être repris par inondation à partir de vagues ou de tempêtes venant de la mer. Donc les changements climatiques et ce qu'on attend à partir d'eux, c'est-à-dire remonter du niveau de la mer, peuvent avoir des conséquences extrêmement graves sur un certain nombre de grands deltas. On parle du Niger, on parle du Gange avec le Bangladesh, on parle peut-être du Mississippi aussi, mais ça c'est un petit peu moins grave. Donc là, il y a effectivement des gens qui vont se retrouver chassés de chez eux parce que la terre a été inondée. Donc ça, qu'est-ce qu'ils deviennent, où est-ce qu'ils vont se reloger? C'est une question extrêmement prégnante, extrêmement importante, extrêmement grave, sur laquelle on n'a pas de réponse très claire aujourd'hui.
Eh bien, nous allons parler dans cette troisième partie d'émission, après une deuxième pause, les solutions possibles, les solutions esquissées pour essayer de vivre dans les meilleures conditions possibles avec un minimum d'eau pour chacun. A tout de suite, Guylaine Marcilly.
Découvrez les lettres que Marcel Proust, préparant ses romans, écrivait à Émile Malle de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ces missives laissent penser que Proust s'est inspiré de la connaissance d'Émile Malle sur les édifices religieux et l'histoire de l'art, en particulier pour rédiger du côté de chez Swann. Ces lettres confirment l'extrême minutie de Proust jusqu'au moindre détail.
Suite de notre émission, toujours en compagnie de Guylaine Marcilly, dans cette troisième partie d'émission, Guylaine Marcilly, si vous le voulez bien, est-ce qu'ils sont les solutions pour essayer de vivre ensemble avec un minimum d'eau, un minimum de nourriture aussi. Arrêtons-nous quelques instants sur les solutions quant à l'alimentation. Nous en avons parlé dans la première partie de l'émission sur la possibilité de moins consommer. Alors bien sûr, il y a beaucoup de disparités. Quand on parle de moins consommer, cela s'applique aux pays industrialisés, les pays du Nord. On ne peut pas décemment dire à une population dénutrie de moins consommer. Quelles seraient les alternatives quant à la consommation? Faudrait-il par exemple consommer moins de viande?
Oui, c'est une bonne question. Il faut savoir que nous consommons à peu près en moyenne sur la planète 3000 kilocalories par jour et par personne, c'est la moyenne mondiale, mais que ces chiffres cachent des disparités extrêmement grandes, allant de moins de 2000 pour les pays les plus pauvres à plus de 4000 pour les pays les plus gaspilleurs, disons. 3000 est tout à fait suffisant pour nourrir une personne ayant une activité physique raisonnable. Peut-être qu'un travailleur de force qui manie une pelle toute la journée a besoin d'un peu plus. Mais disons que nous, occidentaux, qui travaillons le plus avec nos doigts pour taper sur des claviers d'ordinateur, 3000 est excessif. Alors là-dedans, il y a une partie qui est apportée sous forme d'aliments d'origine végétale, c'est le grain, les légumes, les fruits, des choses comme ça, l'huile. Et puis une autre partie est apportée sous forme de nourriture d'origine animale, qui sont la viande, vous en avez parlé, mais aussi les laitages, les œufs, les choses comme ça. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, sur les 3000 que nous consommons, ou 3 ou 4000 que nous consommons ici dans le monde industrialisé, il y en a environ 1000 qui proviennent de produits animaux, et le reste provient de produits végétaux. En revanche, dans les pays en voie de développement, on arrive à des déficits très importants, où les gens ne mangent pas assez de produits animaux. Vous l'avez bien dit, il ne faut pas parler de réduire la consommation des pays où on est déjà affamé. On parle de 300 kilocalories par jour et par habitant d'origine animale, ce qui est insuffisant. Il faudrait arriver, pour un monde équitable, il faudrait arriver à peu près à mettre tout le monde à 500. À 500 kilocalories, laitage, œufs et viande. Et à ce moment-là, on aurait à peu près une alimentation suffisamment équilibrée qui donnerait suffisamment de protéines à tout le monde. Et d'autre part, on consommerait beaucoup moins parce qu'il faut savoir que quand on mange un produit d'origine animale, eh bien, on consomme, entre guillemets, de façon indirecte, énormément d'eau. Puisque, pour vous donner un ordre de grandeur, on s'est calculé, on s'est mesuré combien d'eau il faut pour produire un kilo de blé. C'est facile à faire, il suffit d'arroser un plant de blé pendant quelques mois pour voir combien d'eau il a fallu pour produire la quantité de grains. Donc on trouve que pour un kilo de blé, il faut à peu près 1000 litres d'eau. Alors ça varie, le riz c'est un peu plus, c'est plutôt 2000, le maïs c'est un peu moins, c'est plutôt 700, enfin l'huile c'est un peu plus, c'est plutôt 5000. Bon. Et alors maintenant, si je me pose la même question, combien d'eau faut-il pour produire un kilo de viande? C'est la question que vous me posiez. Eh bien, c'est énorme. Pourquoi? Parce que, en particulier pour la viande bovine, quand elle est produite à partir de grains, je ne dis pas la vache qui mange de l'herbe dans le Massif central, c'est très bien, ça c'est très bien. La vache qui reste dans une étable et auquel on apporte du soja ou du maïs et qui mange donc de la nourriture que l'on a été récoltée pour elle, eh bien, il faut compter combien d'eau a été utilisée pour produire le maïs ou le soja ou le colza qui leur a été donné. Et à ce moment-là, on traduit en quantité d'eau le poids du beefsteak. Alors, le chiffre est le suivant. Pour un kilo de bœuf, il faut 13 000 litres d'eau, c'est-à-dire 13 fois plus que pour un kilo de pain. Donc évidemment, si vous mangez beaucoup de viande, traduit en quantité d'eau, vous consommez énormément. Donc, dans cet esprit que vous me posez comme question, peut-on réduire notre consommation? Oui, on peut très facilement réduire notre consommation. Je l'ai dit, mais je le répète, d'abord en ne gaspillant pas, ensuite en réduisant la consommation de produits animaux et en particulier de produits de bœuf, de viande de bœuf, produite au grain. Je ne parle pas de la viande de bœuf produite en pâturage naturel, ça c'est autre chose, parce que là, l'animal consomme de l'herbe que nous ne pouvons pas consommer. Nous ne sommes pas capables de digérer de l'herbe. Donc il faut bien distinguer là. Le poulet et le porc sont quand même beaucoup moins, je dirais, exigeants en matière d'eau. On a, avec 4000 litres d'eau, on peut avoir un kilo de poulet ou un kilo de porc. Donc le porc et le poulet sont des viandes plus économes, entre guillemets, en eau que n'est le bœuf.
Ça, c'est pour ce qui est de la consommation alimentaire, notre propre consommation. Mais venons-en à l'eau. Est-ce que l'on pourrait augmenter nos ressources en eau? Je pose la question, il y a déjà des solutions esquissées et des solutions parfois assez curieuses. Vous allez pouvoir nous en parler pour terminer cette émission. Notamment, la possibilité de récupérer la vapeur d'eau atmosphérique.
Oui, c'est un joli rêve, je dirais. L'eau, l'atmosphère contient un peu d'eau, un peu de vapeur d'eau. Et dans certaines zones de la planète, il y en a beaucoup plus. On a des zones très humides où on a des vents chargés en humidité. Pratiquement, quand on se déplace dans ces régions-là, on est humidifié soi-même par cette espèce d'embrun permanent que constituent les apports d'eau atmosphériques. J'ai en particulier visité les îles Galapagos, c'est à l'altitude des tropiques, et on appelle ça la garloie. La garloie, c'est une espèce de pluie qui n'en est pas une, c'est de l'eau qui est charriée par les nuages et qui arrive sur le volcan des Galapagos et qui se précipite et qui tombe en pluie. Alors on peut mettre effectivement des filets à brume, des filets à nuages, qui sont des filets verticaux, auxquels ce vent qui charrie cette eau condense ou précipite ou font tomber sous forme de gouttes ces petites particules d'eau, et on arrive au bout de quelques heures à avoir un peu d'eau au bout du filet. Alors je dirais que c'est un peu anecdotique parce que il faudrait des kilomètres de filets pour produire des quantités d'eau raisonnables. Enfin, quand on n'a rien d'autre, on peut très bien espérer pouvoir boire grâce à ce type d'instrument assez simple de récupérer l'eau. Alors, il y a des projets un petit peu plus futuristes, si je puis dire, qui consistent à refroidir des condenseurs, ce qu'on appelle l'effet de paroi froide. Vous savez très bien que si vous prenez une douche chez vous, vous avez de la vapeur d'eau dans la pièce, et cette eau se condense sur les parois froides, sur le miroir de votre salle de bain, etc., qui est froid. Donc si on refroidit quelque chose, eh bien, l'eau de l'atmosphère vient s'y condenser. Alors l'idée, qui a été mise au point et développée par un chercheur, ici en France en particulier, consiste à refroidir une plaque que l'on met dehors, comme une sorte de frigidaire, si vous voulez, mais un frigidaire qui serait ouvert, qui serait une plaque refroidie, voir l'eau se condenser dessus, on la récupère en dessous, et pour alimenter l'énergie nécessaire à faire fonctionner le frigidaire, eh bien, on mettrait une éolienne. Donc, vous voyez, ce serait très intéressant du point de vue énergie nouvelle, puisqu'on ne consommerait pas des énergies fossiles pour faire ça, mais on ferait tourner une éolienne qui ferait condenser de l'eau. Ça ne tient pas la route, parce que c'est tellement cher, il faudrait construire une éolienne. Ensuite, un frigidaire qu'on ferait marcher tout le temps avec cette éolienne pour refroidir de l'eau, refroidir la plaque sur laquelle va se condenser l'eau, vous auriez de l'eau qui serait à 4 fois le prix de l'eau des viandes. Donc, c'est très gentil, c'est très sympathique, mais ça ne tient pas la route du point de vue économique.
Ça ne tient pas la route. Une autre possibilité assez curieuse que j'ai pu lire dans votre livre, remorquer les icebergs. Alors là, je suis restée, heureusement que j'étais assise.
Alors écoutez, oui, alors on revient sur ce que nous avions dit au départ. Nous avons ces fameux 3% de l'eau qui arrive sur les continents qui se retrouvent sous forme de glace en Antarctique ou en Groenland. Et donc cette eau, je vous l'ai dit, elle arrive sous forme de glace, elle fond, elle arrive sous forme d'iceberg et ces airs fondent dans la mer. Alors évidemment, l'idée a été de dire, on va aller les tirer, les amener près de chez nous, et puis on pourra éventuellement s'arranger pour récupérer l'eau de fonte et l'utiliser. Alors, c'est aussi une idée sympathique, mais c'est absurde. Alors, j'ai fait quelques calculs avec un officier de marine de la marine française pour essayer de calculer la quantité d'énergie qu'il faudrait dépenser pour tirer le plus gros iceberg que l'on puisse aujourd'hui remorquer avec un remorqueur. Il ferait 100 000 mètres cubes d'eau. C'est énorme, hein ? Ça ferait 100 000 tonnes, si vous voulez. C'est énorme. Bon, il faudrait à peu près 6 mois pour le déplacer de l'Antarctique pour l'amener, par exemple, en Arabie Saoudite qui manque d'eau. Donc, vous voyez, ça prend un temps fou. Et si je ramène la quantité d'énergie qu'il faudrait donner au remorqueur pour ramener l'iceberg de l'Antarctique à Jeddah en Arabie Saoudite, c'est environ 20 kWh par mètre cube d'eau. 20 kWh. Or, pour faire de l'eau douce à partir de l'eau salée par dessalement de l'eau de mer, par osmose inverse, on consomme en moyenne entre 3 et 5 kWh par mètre cube. Donc c'est absurde, on ne va pas les tirer de la glace, même si c'est amusant et intéressant, de l'Antarctique pour l'amener en Arabie Saoudite, alors qu'on pourrait très bien prendre de l'eau de mer sur glace et la dessaler, ce que font les Saoudiens depuis très longtemps. Donc ça pourrait éventuellement avoir une toute petite place pour l'Australie, qui est proche de l'Antarctique, puisqu'il est dans l'hémisphère sud, et où, effectivement, la distance étant beaucoup plus faible, on pourrait envisager de tirer quelques icebergs. Mais, à mon avis, ça ne tient pas la route par rapport au dessalement de l'eau de mer.
Les autres solutions sont quand même beaucoup plus envisageables. Recycler l'eau, mais il me semblait que c'était déjà le cas. Vous l'avez cité parmi les solutions à envisager. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne recycle pas l'eau ?
Alors, on peut recycler, je dirais, artificiellement les eaux, c'est-à-dire, par exemple, prendre les eaux usées d'une ville comme Tunis ou Alger ou Casablanca, les traiter jusqu'à ce qu'on enlève tout ce qui peut être polluant dans ce qu'elle contient, et puis le réutiliser en agriculture. Donc ça, on appelle ça le réemploi des eaux usées urbaines, et c'est quelque chose que l'on fait, on est en train de mettre en place, hein, ça se fait dans les pays arides, ça se fait en Israël, ça se fait au Maroc un petit peu, en Tunisie un petit peu, et donc on peut aller plus loin en faisant ça un petit peu systématiquement dans les pays arides. Alors, il y a une autre forme, je dirais plus traditionnelle, de recyclage des eaux. C'est ce que je dis dans mon livre. Si je prends, par exemple, les eaux usées de la ville de Paris, elles sont retraitées par des stations du syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne, le SIAP, et elles sont rejetées à la Seine. Et, comme par hasard, les villes de Paris, à l'aval de Paris, comme Rouen, comme Mantes-la-Jolie, etc., utilisent pour leurs besoins en eau les eaux de la Seine. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On la recycle. En fait, ça s'est fait tout seul, si vous voulez. On n'a pas pris les eaux de Paris pour les amener à Rouen. Non, on les a remis dans la Seine, et puis dans la Seine, à Rouen, on les a reprises. Et de même, il ne faut pas dire que c'est nous, les Parisiens, qui polluons tout. Nous, Parisiens, nous avons pris l'eau de la Seine, de l'Oise ou de la Marne, et nous avons, avec ça, repris toutes les eaux déjà utilisées par nos amis de Troyes, de Melun, de Fontainebleau, etc., qui ont fait la même chose. Ils ont rejeté leurs eaux usées, traitées, dans la rivière. Donc on recycle tout naturellement, et on peut augmenter un petit peu ça, le faire plus systématiquement dans les pays riches, c'est une voie à faire. Mais je dirais que quand même, une des meilleures voies peut-être pour augmenter les ressources en eau, à part le dessalement d'eau de mer qui coûte cher en argent et en énergie, c'est peut-être de développer des cultures plus économes en eau. Développer par la sélection naturelle ou par d'autres méthodes, des plantes qui arrivent à produire un peu plus en consommant moins. C'est faisable. Il y a une petite gain à faire, ou bien les techniques d'irrigation qui consomment moins d'eau pour faire la même quantité de production agricole. Donc il y a des voies d'amélioration technologique que l'on peut regarder.
Encore faut-il que le public soit prêt à accepter les organismes génétiquement modifiés ?
J'en ai pas parlé, hein. C'est pas nécessaire. On peut très bien faire de la sélection naturelle. On peut faire des OGM, pourquoi pas, hein. J'ai rien contre les OGM si on peut me montrer qu'ils n'ont pas d'effet négatif sur le reste des écosystèmes. Mais la sélection naturelle, qui est une chose qu'on pratique depuis des millénaires, hein, qui consiste à croiser des plantes les unes avec les autres de façon à sélectionner les propriétés de ces plantes que nous jugeons favorables, on peut très bien essayer de le faire pour sélectionner des plantes qui résistent mieux à la sécheresse. Ça existe.
Eh bien, je vous remercie, Guylaine Mercilly. Je redonne le titre de votre ouvrage « L'eau, un trésor en partage » avec la préface de l'un de vos confrères à l'Institut, Éric Orsenna de l'Académie française. Un livre paru aux éditions Dunod en 2009, où donc nos auditeurs pourront retrouver bien sûr de nombreux chapitres. Nous avons esquissé que quelques questions parmi toutes celles évoquées dans votre ouvrage, notamment sur la pollution de l'eau. On l'a esquissé, mais vous avez tout un chapitre dessus. Sur l'eau de boisson, on n'en a pas parlé. Et puis sur les sécheresses, les eaux souterraines, le cycle de l'eau et encore bien d'autres, également les écosystèmes aquatiques. Merci Guylaine Mercilly et je l'espère à bientôt pour de nouvelles explications sur l'eau ou d'autres sujets en votre compagnie.
Merci de ces questions et de vos commentaires.